Alors, ces grands rituels, ils peuvent avoir lieu soit sur quelques jours, c'est plutôt quelques nuits d'ailleurs, parce qu'on fait ça uniquement la nuit. Donc, une famille, c'est plutôt le cas actuellement, moyennement fortunée, elle va s'offrir un rituel de 3 jours par an. Par contre, les familles qui ont des arrivées d'argent des pays du Golfe, ce qui est très fréquent dans cette région de l'Inde, voilà, qui ont de la famille en diaspora, ils ont évidemment les moyens de s'offrir des rituels qui peuvent durer 3 semaines. J'ai déjà assisté à un rituel qui dure 3 semaines. Et ces rituels qui se passent la nuit vont suivre un scénario tout à fait identique chaque soir. Donc je vais vous donner ces différentes étapes de manière un peu schématique, ce qui permettra de mieux comprendre ensuite, de mieux entrer dans la musique et dans la pratique des dessins de sol. Alors la trame générale, c'est toujours d'abord représenter visuellement les divinités. Donc cette technique du kalam, du dessin de sol, c'est pas uniquement un savoir-faire esthétique, c'est aussi une manière de manifester la divinité serpent. On pense toujours que la manière de manifester le divin va se faire forcément par des éléments anthropomorphes. Les divinités hindoues, évidemment, elles se présentent sous forme de statuettes dans les temples, sous forme d'imageries, qui sont nombreuses, mais il y a de multiples manières de rendre présent ces divinités. Un objet, par exemple, dans le monde hindou, c'est très fréquent qu'un mortier, par exemple, puisse manifester une divinité. Ou une parole peut être aussi une manière de manifester une divinité. Un chant aussi, et une image faite avec des poudres peut l'être aussi. Parce que, on pourrait dire, là, c'est beaucoup plus large que la pratique des Poulvanes. Pour pouvoir rendre culte aux divinités hindoues, il faut pouvoir les voir. Il faut visualiser la divinité. Ça passe par le regard. On est dans la culture de la vision, hein. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'on soit aussi dans le pays du plus grand producteur de cinéma. Je pense qu'il y a quand même un lien. Il y a une culture du visuel très forte. On visualise la divinité et en retour, il faut que cette divinité puisse nous visualiser aussi. Il y a cet échange de regard toujours avec l'image qu'on est en train de représenter. Donc le kalam, qui sera aussi là ce week-end, ici au musée du Quai Branly, c'est avant tout une manière de manifester la divinité et elle constitue l'épicentre de toute l'action rituelle. Donc ça, c'est un élément qui va prendre beaucoup de temps. C'est plusieurs heures pour tracer un dessin de poudre. On en verra des exemples tout à l'heure. Et pour vous visualiser un petit peu comment se déroule le rituel, en général, les Poulvanes arrivent chez leur patron vers 4-5 heures, peu avant la nuit. La nuit tombe très tôt, hein, vers 18 heures. Et le processus de construction du dessin, ça va durer jusqu'à 10 heures le soir. Donc c'est plus de 5 heures de tracé, hein, pour les plus grands kalam. Donc étape préalable, visualiser la divinité. Deuxième grande étape, on va disposer toute une série d'offrandes autour du dessin et on va le faire de manière spatialisée. Donc les dessins, c'est techniquement des mandalas, donc ça veut dire que c'est des dessins qui sont orientés dans l'espace. 4 points cardinaux plus 4 directions intermédiaires. Et dans chacune de ces 8 directions, on va disposer différents types de riz, des noix d'arec, des feuilles de bétel, des bananes, du sucre, des noix de coco. Enfin, c'est tout à fait fourni au niveau alimentation, parce qu'il faut bien nourrir les divinités. Et on va commencer ce qu'on appelle la série de puja, qui s'adresse aux différentes divinités qui habitent les 8 directions du dessin. Ça, c'est un élément général des cultes dans le monde hindou. Quand vous convoquez une divinité, il est rare que vous la convoquiez toute seule. Elle est toujours accompagnée de divinités mineures ou de sa garde, de sa suite. Donc, c'est jamais une divinité, elle est toujours accompagnée d'un tourbillon d'autres divinités qu'on va considérer comme mineures si le culte est adressé à l'une ou à l'autre, hein. Mais ces divinités mineures, elles pourront devenir principales dans un autre type de culte. Donc, autour de ces dessins, faut imaginer plein de plusieurs types de divinités qui sont plus ou moins bienfaisantes et qu'il faut rendre propices. Et c'est des questions assez pragmatiques, hein. C'est-à-dire que si on ne rend pas propice, par exemple, à l'aigle Garuda, qui est la monture du grand dieu Vishnu, qui est un aigle donc, Garuda, si on ne rend pas culte d'abord à cet aigle, les serpents ne vont pas se matérialiser dans l'image. Ils risqueraient d'être bouffés, je prends le terme, parce que c'est comme ça que les gens parlent, ils risqueraient d'être complètement mis à mort par cet aigle. Donc on prend beaucoup de précautions. C'est cette étape-là consiste à rendre propice ces divinités. Donc ça fait avancer le rituel, ça prend plusieurs heures. Tout ça est accompagné de musique instrumentale, donc le po que vous avez vu, et un autre instrument qui est une vielle, qui est joué par les Puluvans. Donc les Puluvans ont déjà tracé le dessin, et ensuite ils assument toute cette partie musicale qui accompagne les pujas. Étape suivante, il va falloir rendre animer, ce serait le terme, la traduction française la plus appropriée, animer le dessin de sol. Parce que représenter visuellement un serpent, on n'est pas encore sûr que la divinité soit bien présente dans l'image. Donc il faut pouvoir investir ce dessin de la présence divine, et ça on va le faire avec de la musique vocale. Donc il y a tout un répertoire de chants des Puluvans qui consiste à raconter la naissance des divinités. On refait leur histoire à chaque rituel pour qu'elles puissent venir s'incarner. Donc ça, c'est une séquence qui est assez relativement rapide si on la compare à tous les préliminaires, puisque en général, les Puluvans vont entonner là 3 ou 4 chants maximum. Étape suivante, ça va être des séances de possession. On va inviter deux jeunes filles, en général non mariées, qui sont, elles, issues de la famille commanditaire. Donc, ce sont des femmes, des jeunes femmes, elles ont en général entre 15 et 20 ans, pour la majorité. Et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'elles soient vierges, il faut qu'elles soient non mariées. Et on les invite à s'asseoir sur le dessin. Et c'est à travers le corps de ces jeunes femmes que les divinités serpents vont pouvoir s'incarner à nouveau. Elles sont déjà dans l'image. C'est pas du tout surprenant aussi que dans le monde hindou, on multiplie les formes de manifestation. Donc dans la possession, on va les inviter à se manifester. Donc ça va se faire aussi en musique. Il va y avoir des chants tout à fait, on pourrait les appeler des chants d'appel. Mot à mot, c'est des chants de tremblement, tulel pate, où on invite les divinités, on leur dit « Venez, venez mes divinités serpents, dansez, vous allez recevoir le calame qu'on vous a offert, vous allez recevoir les offrandes qu'on vous a offertes, venez, n'ayez pas peur. » C'est un discours très, très intime aussi, hein, avec les divinités. Si le rituel marche, les jeunes femmes vont rentrer en transe et vont commencer à être possédées. Et elles vont le faire dans une posture corporelle tout à fait identificatoire au serpent. C'est-à-dire que ça va être des gestes de rotation, des comportements, on rampe sur le sol, on va se déplacer de manière qui ressemble à rien, un déplacement en temps normal. D'ailleurs, c'est assez surprenant quand on connaît les jeunes femmes, de les voir avant le rituel et au moment de la possession, on a affaire vraiment à des personnes différentes. Elles ne sont plus ce qu'elles sont dans la vie quotidienne, hein. Elles deviennent réceptacles de la divinité. Et c'est dans ces mouvements, en fait, du corps, en rotation, que le dessin qui est fait de poudre va être effacé. Ça, c'est une règle importante du calame. Le calame est une image qui est toujours éphémère. Jamais un calame va durer plus le temps d'un rituel. Donc, on invoque les divinités et, par le fait de les effacer, on va les faire repartir aussi, hein. Il est hors de question de garder les divinités serpents sous cette forme-là, en tout cas de manière prolongée. Ce qui amène à vous décrire la dernière séquence rituelle, ce qu'on pourrait appeler la séance de divination, où on va pouvoir interagir directement avec ces divinités serpents. Donc là, c'est des moments de très forte intensité pour les familles qui commandent les rituels. qui se préparent à ce rituel depuis plusieurs jours, qui ont investi énormément d'argent, et elles vont pouvoir interagir directement et demander aux divinités, mais quel est donc le problème ? Quels sont vos griefs envers nous ? Pourquoi mon fils n'a pas de travail ? Pourquoi mes enfants sont malades ? Donc c'est à ce moment-là qu'on parle très librement avec les divinités. Et les Puluvan, là aussi, jouent un rôle tout à fait important, puisque c'est eux qui vont médiatiser la parole entre la divinité et le commanditaire. C'est rare que le commanditaire s'adresse directement à la divinité. En tout cas, il n'osera pas. Donc ces Puluvan, vous voyez, ils sont spécialistes d'un culte pour lequel ils dessinent, ils chantent, ils conduisent des gestes de puja, ils invoquent les divinités et ils médiatisent la relation avec elles. Donc c'est bien plus que de simples musiciens.